c'est l'heure de notre journal d'Haïti et des Amériques présenté par Anne Verdaguer. Bonjour Anne.
Bonjour à tous. À la une de ce journal, les 40 ans de la révolution sandiniste au Nicaragua. On reviendra sur la genèse de ce mouvement qui a mis fin à 40 ans de dictature avec Romain Le Maresquier. On va reparler des propos jugés racistes de Donald Trump contre 4 élus démocrates. Celles-ci lui ont répondu. On les entendra dans ce journal. Et puis l'histoire un peu folle de ce touriste français venu dans le désert d'Atacama au Chili pour les vacances et qui a ouvert une boulangerie qui emploie aujourd'hui 22 personnes. C'était donc le 19 juillet 1979. Ce jour-là, le Front sandiniste de libération nationale mettait fin à plus de 40 ans d'une dictature devenue dynastique de la famille Somoza au Nicaragua. Cet effort pour faire basculer le pays vers un régime progressiste et de gauche avait été entrepris dès la fin des années 50. Plus les années passent, plus l'opposition à la famille Somoza s'accentue. Une lutte qui s'est intensifiée en 1978 donc et qui a obligé les deux parties à entamer des négociations au Costa Rica. Ce vendredi marque donc le 40e anniversaire de cette révolution populaire sandiniste, également appelée la révolution nicaraguayenne. L'occasion de revenir sur cette période et l'évolution de cette révolution avec Romain Le Maresquier.
La révolution sandiniste avait un objectif prioritaire, mettre fin au régime des Somoza, un régime qui s'accaparait les richesses du pays et qui n'hésitait pas à réprimer et à tuer pour se maintenir au pouvoir, comme le raconte l'ancienne commandante du Front sandiniste de libération, Monica Baltonado, qui fut emprisonnée et torturée par ce régime en 1977.
C'était une dictature dynastique qui est devenue la plus criminelle d'Amérique latine. Un régime qui, pour conserver le pouvoir, a réprimé, a incarcéré, a exilé et a assassiné.
Mais même si le but de cette révolte était de mettre fin à ce régime, les sandinistes, comme le détaille Monica, avaient une idée très claire du système qu'ils souhaitaient mettre en place au Nicaragua.
Notre but n'était pas seulement de faire partir Somoza, mais également de transformer le Nicaragua pour mettre en place un régime démocratique avec une justice sociale. Nous aspirions à mettre fin aux grandes exploitations agricoles. Nous avions promis une réforme agraire, une réforme urbaine. Nous avions promis de combattre la prostitution qui était légalisée à cette époque, de combattre les discriminations faites aux femmes. Il s'agissait d'idéaux avec une orientation socialiste, mais qui en même temps revendiquaient une économie mixte, le pluralisme politique.
Una economía mixta, pluralismo político.
Le 17 juillet 1979, les sandinistes, suite à un accord lors des négociations qui se déroulaient au Costa Rica, reviennent dans la capitale Managua et après deux jours d'attente et des combats sporadiques, le temps était venu de prendre le pouvoir.
El propio 19 de julio.
Le 19 juillet, nous sommes entrés dans les quartiers généraux et dans la résidence présidentielle qu'avait occupée Somoza. Nous étions des jeunes hommes, des jeunes femmes. La plupart d'entre nous n'avions pas encore 25 ans. Moi, par exemple, j'avais 24 ans. Et nous sommes entrés, bien entendu, avec beaucoup de joie.
À partir de cette date, le Front de libération sandiniste va occuper le pouvoir jusqu'en 1990. Monica Baltonado occupera divers postes durant cette période. Vice-ministre de la présidence, elle sera ensuite ministre des Affaires régionales. Une époque durant laquelle le pays se transforme mais peine à se relever alors qu'il fait l'objet d'un embargo américain. Un pays qui se retrouve également au cœur de la guerre froide avec en toile de fond la guerre contre les contras au Honduras. Un conflit qui va obliger le régime sandiniste à organiser des élections sous la supervision d'observateurs internationaux, des élections que les sandinistes perdront en 1990. Il faudra alors attendre 2006 pour assister au retour de cette force révolutionnaire. Daniel Ortega s'impose lors des élections présidentielles dans un pays mis à mal par une gestion catastrophique et qui ne s'est toujours pas relevé du passage en 1998 de l'ouragan Mitch. Mais le Front sandiniste n'est plus de la même formation, comme l'explique Monica Baltonado.
Le Front sandiniste a évolué après la défaite électorale de 1990. Il a vécu un long processus de mutation. Pour vous le résumer, je peux vous dire que Daniel Ortega a fini par s'emparer ou privatiser le Front sandiniste. Il a fini par le convertir en un simple appareil électoral à son service. Le Front sandiniste a cessé d'être un parti avec des organes décisionnaires, des congrès, et est devenu une force dominée de forme verticale et absolue par Daniel Ortega.
forma vertical y absoluta por Daniel Ortega.
Mónica Baltonado, qui refusait cette évolution du front sandiniste, a été exclue de la formation politique, elle qui était entrée dans ses rangs en 1972. Elle refusait les alliances et les connivences de Daniel Ortega avec d'autres leaders politiques corrompus. Aujourd'hui, elle s'oppose en opposante à Daniel Ortega.
À partir du moment où il prend le pouvoir, il met en place un projet qui représente l'antithèse des idéaux pour lesquels nous avions lutté. Il va commencer à gouverner en passant rapidement de l'autoritarisme à un contrôle absolu de tous les pouvoirs. Il a pratiquement supprimé l'indépendance des pouvoirs. Il contrôle le pouvoir électoral, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il contrôle également l'armée et la police. Et avec cette mainmise, il est en train de mettre en place ce que nous dénoncions à l'époque, la construction d'une dictature, à l'image de la dictature des Somoza contre laquelle nous avions lutté.
40 ans après la révolution sandiniste, l'esprit révolutionnaire demeure, mais plus dans les rangs du front sandiniste. Depuis avril 2018, la majorité des Nicaraguayens réclame le départ de Daniel Ortega, un homme qui a fini par revêtir le costume de celui contre qui il luttait en 1979, c'est-à-dire le costume de dictateur.
Un dossier signé Romain Lemaresqui. Et bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La révolution sandiniste, on en parle aussi dans la presse aujourd'hui.
Oui, le 19 juillet 1979, il y avait beaucoup d'espoir, raconte un journaliste costaricain qui a couvert la chute de la dictature Somoza. Un espoir qui s'est ensuite transformé en une déception majeure, poursuit Edgar Fonseca Monge dans une interview accordée au journal El Nuevo Diario. Je n'aurais jamais pensé que le Nicaragua atteigne, voire dépasse les niveaux d'autoritarisme et de répression de la dictature Somoza. La révolution sandiniste a débouché sur le même état répressif qu'elle a combattu il y a 40 ans, explique le journaliste. Ils ont renversé une dictature pour en établir une autre, renchérit pour sa part la Prensa. Le site de la chaîne Telesur, proche du gouvernement vénézuélien, met en avant les avancées sociales de la révolution sandiniste. Elle avait réussi à réduire la pauvreté, à améliorer l'éducation et la santé. En revanche, pas un mot sur la politique de répression du président Ortega qui a fait plus de 300 morts.
La révolution sandiniste au Nicaragua constituerait donc une réussite sociale.
Eh bien, cet avis n'est pas partagé par les spécialistes. Dans un entretien accordé au journal El Nuevo Diario, Josefina Bujil-Gurdian, chercheuse dans le domaine de l'éducation, dresse un tableau moins optimiste. Certes, en 40 ans, l'accès à l'éducation s'est amélioré, mais le système scolaire reste de mauvaise qualité pour la majorité des Nicaraguayens. Cela suffit tout juste pour prétendre à des emplois de peu qualifiés. Autre critique émise par la spécialiste, les plus pauvres restent exclus de l'école, les autorités politiques n'ayant pas trouvé un modèle alternatif qui permet de les intégrer.
Direction les États-Unis à présent, où la polémique sur les propos jugés racistes du président américain prend de l'ampleur. Les quatre élus démocrates visés par ces attaques, toutes issues des minorités, ont réagi lors d'une conférence de presse. On écoute Alexandria Ocasio-Cortez, députée de New York, et Ilhan Omar, qui s'exprimait, elle, dans son fief du Minnesota.
It's taken us 240 years.
Il nous a fallu 240 ans pour avoir cet unique mélange au Congrès à cet instant. Et nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas à l'époque de l'injustice. Nous ne reviendrons pas sur nos droits. Nous ne refuserons pas la liberté à nos frères et sœurs transfrontaliers. Nous ne renierons pas notre propre humanité à la frontière. Nous ne reviendrons pas en arrière, nous irons de l'avant.
Quand j'ai dit que j'étais l'espoir des États-Unis, c'est parce que j'incarne ce à quoi cet espoir doit ressembler. Et quand j'ai dit que j'étais le cauchemar du président, vous êtes en train de le regarder en ce moment. Parce que son cauchemar est de voir une immigrante, une réfugiée somalienne se hisser jusqu'au Congrès. Nous sommes dans l'arène, nous sommes chez les citoyens et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous ayons l'Amérique que nous méritons. Merci.
Voilà, c'était Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar, la députée américaine, l'autre cible des attaques du président, mais aussi de ses partisans. Hier, Donald Trump à Rim s'est distancé de la foule qui scandait « Renvoyez-la » lors de son dernier meeting, mais sans convaincre la presse de sa sincérité.
Oui, c'est une stratégie qui a déjà fait ses preuves lors de la campagne de 2016, écrit le site d'information Politico. Trump provoque, il galvanise la foule et après il recule. Il y a 4 ans, il avait demandé, souvenez-vous, devant ses partisans de poursuivre et d'enfermer sa rivale Hillary Clinton. Et une fois élu, le président a rectifié le tir en disant que ce n'était pas vraiment une bonne idée.
Et cette fois-ci, c'est la même chose à Rim.
Exactement. Après avoir encouragé la foule lors de son meeting mercredi dernier, lui avoir laissé de l'espace pour des gens racistes, il a pris hier ses distances avec cet épisode qui a déclenché un tollé aux États-Unis. Certains sénateurs conservateurs comme Lindsey Graham doutent cependant que le président cesse ses attaques contre ses 4 élus démocrates. Il continuera, c'est sûr, a-t-il déclaré, des propos à lire sur le site de Politico.
Donald Trump qui utilise la présidence comme un mégaphone géant pour alimenter la haine raciale.
C'est ce qu'écrit le New York Times dans son éditorial aujourd'hui. Il cherche à diaboliser ceux qui s'opposent à sa politique en les considérant comme de dangereux extrémistes dont l'objectif est de détruire l'Amérique. Le président tente de diviser les Américains selon leur couleur de peau. Son message aux Américains blancs, c'est « Attention, vous devez lutter contre les non-blancs pour votre sécurité, pour trouver un travail et pour vous enrichir. En est-il vraiment convaincu ou s'agit-il d'une stratégie électorale ? Qu'importe, écrit le New York Times, la douleur qu'il provoque est bien réelle et cela prendra des années pour guérir les blessures qu'il aura laissées. »
Les Américains qui fuient de plus en plus leur pays, entre autres à cause de leur président, c'est un sujet développé aujourd'hui dans la presse canadienne.
Oui, le Canada, nouvelle terre de liberté et d'avenir pour les Américains, s'interroge le Devoir. Depuis 4 ans, le nombre de ressortissants des États-Unis qui ont déposé une demande de résidence permanente au Canada a bondi de 30% environ, selon le quotidien francophone, une tendance à la hausse qui se répercute aussi sur les demandes de naturalisation depuis l'élection de Donald Trump. Justement, en 2016, le nombre d'Américains qui souhaitent devenir Canadiens a augmenté de 60%.
Merci Arim Lipold pour cette revue de presse des Amériques.
RFI, Las Voces del Mundo.
L'histoire un peu folle à présent d'un jeune cuisinier originaire de Bourgogne qui a ouvert une boulangerie française dans le désert d'Atacama, au Chili. Arrivé comme touriste, sac au dos, dans la petite ville de San Pedro, point de départ des excursions touristiques dans le désert, Arthur Becker a commencé à faire du pain dans un four à bois au fond d'un jardin. 8 ans plus tard, le voici à la tête d'une boulangerie et d'un café qui emploie 22 personnes et ne cesse de grandir. Le reportage à San Pedro de Atacama de notre correspondante au Chili, Justine Fontaine.
Au bord d'une rue en terre ocre, quelques tables en bois sont disposées sous les arbres devant la Franchuteria, la boulangerie d'Arthur Becker, un Français de 30 ans arrivé à San Pedro de Atacama en 2011.
Franchute, c'est une manière péjorative de dire le petit français. Franchuteria, donc, c'est la boîte du petit français.
Pendant que quelques clients finissent de petit déjeuner au soleil, nous entrons dans la boulangerie.
Ça, c'est le produit qu'on fabrique ici. On a des pains d'olive, nature, à l'ail, on a lard champignon fromage, roquefort figue, on a le croissant fourré au manjal qui est dulce léché, c'est la confiture de lait en bon français.
Tout ça est fabriqué juste derrière le comptoir.
Donc le fournil, la chambre à four avec le four, la partie croissant, donc là ils sont tous partis, hein, y a plus personne, mais la nuit, à partir de minuit, ben voilà, il y a 4 personnes qui travaillent là-dedans à fond.
Aujourd'hui, la boulangerie emploie 22 personnes, entre boulangers boliviens et serveurs vénézuéliens ou chiliens. Pourtant, Arthur Becker, qui a appris à faire du pain et de la pâtisserie pendant une mission sur la base scientifique française en Antarctique, ne pensait pas du tout s'installer un jour dans le désert le plus aride du monde, jusqu'à ce qu'une de ses amies lui passe un coup de fil.
Je pars en road trip, voyage Chili-Argentine, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et me voilà parti pour Santiago du Chili. C'est la première fois que je voyageais en tant que touriste. C'est la première fois que je me payais un billet d'avion, en fait.
Arrivé à San Pedro de Atacama, au pied des volcans de la cordillère des Andes, il se dit qu'il aimerait rester quelques temps et commence à faire du pain, pour lui, dans un four à bois, au fond d'un jardin d'une auberge de jeunesse. Puis il vend ses baguettes dans les rues du village.
Je me suis mis à faire, dans un lave-bébé en plastique, vous voyez, bah, ma pâte. Je ramenais mon sac de farine de 50 kg sur mon vélo. Ce qui m'a vite manqué, c'était du matériel. J'accumulais les dettes, les heures de travail.
J'avais pas assez de pain pour faire que mes clients soient contents. Il leur en manquait tout le temps. Jusqu'un jour où, en fait, je me suis fait une tendinite aux deux bras. À force de faire de la pâte, je faisais tout à la main. Je pouvais même pas lever une bouteille de vin pour un bourguignon, vous vous rendez compte.
Pour l'aider, une de ses proches lui achète alors une machine à pétrir le pain. Arthur Becker ouvre un petit point de vente. Il écoule toujours aussi facilement baguettes et croissants. Mais il lui manque encore un four professionnel. Et finalement, un chef d'entreprise de la région qui travaille dans l'industrie minière lui propose de s'associer avec lui. L'homme d'affaires investit presque 150 000 euros dans la boulangerie.
Depuis 2 ans et demi qu'on est associés, on n'a pas arrêté de grossir depuis quoi. C'est vraiment, on a vraiment, vraiment explosé.
L'entreprise fournit aujourd'hui une quinzaine d'hôtels de la ville à l'heure du petit déjeuner. Et de nombreuses agences de tourisme viennent chercher baguettes et croissants pour leurs clients avant de partir en excursion. Même les Atacamènes, les membres des communautés indigènes locales, viennent acheter du pain ici. C'est ce qu'explique Olivier Jallois, guide touristique, client et ami d'Arthur Becker.
Tu vas voir des Atacamènes surtout le matin qui viennent chercher les pains au chocolat, les baguettes. Et alors, je ne sais pas s'ils en achètent tous les jours, parce que c'est quand même plus cher que le pain en général au Chili. Mais ça n'empêche que c'est un très beau succès de ce côté-là, parce que c'est vraiment le boulanger du village.
Arthur Becker vient d'ouvrir un nouveau point de vente dans le cœur touristique de San Pedro. Et d'ici à 5 ans, il aimerait inaugurer le premier restaurant gastronomique de la ville. Une ville qui reçoit près de 500 000 touristes par an. Des chiffres en constante augmentation. Justine Fontaine, de retour de San Pedro dans le désert d'Atacama, RFI.
L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première Caraïbe présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une en Guadeloupe, l'association Vivre, soutenue par le Conseil représentatif des associations noires de France, saisit le procureur de la République de Paris.
Oui, l'association demande que toute la lumière soit faite sur la disparition des archives sur le chlordécone conservé au ministère de l'Agriculture. Il s'agit de rapports rédigés entre 1972 et 1989 sur la toxicité de ce pesticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles. Une disparition portée à la lumière par la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone. La requête de Vivre est un premier pas avant un dépôt de plainte pour détournement d'archives publiques, corruption active et recèle les explications de Jean-Marie Flower, membre de l'association Vivre.
Toutes les associations et tous les collectifs qui suivent cette question-là de près en Guadeloupe, en Martinique et également dans l'Hexagone, hein, comme le CRAN, eh bien nous sommes très vigilants à ce que les éléments d'information qui sont encore manquants et pour lesquels le ministère de l'Agriculture a promis, entre guillemets, de faire le maximum pour les fournir d'ici la fin de la commission d'enquête parlementaire, eh bien nous serons très vigilants à ce que ces éléments-là soient effectivement versés au dossier. Et s'ils ne le sont pas, à ce moment-là, ben nous nous réservons la possibilité de porter une action en justice encore plus explicite contre cette fois-ci directement la responsabilité ou plutôt le défaut de respect de ses obligations de l'État ou de ses hauts fonctionnaires.
Jean-Marie Flower, membre de l'association Vivre au micro de Sébastien Gilles de Guadeloupe La Première. En Martinique, l'UPEM, l'Union des parents d'élèves, appelle à la mobilisation pour pointer du doigt les problèmes de l'éducation dans le département. Avec le slogan « C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu », l'UPEM invite toutes les associations de parents d'élèves, les enseignants et les syndicats à une rencontre ce vendredi après-midi à son siège à Fort-de-France. Le but, dénoncer les mauvaises conditions qui se profilent déjà pour la future rentrée scolaire. Guy Métalli, administrateur de l'UPEM.
S'il n'y a pas l'unité, il n'y aura rien. C'est même pas la peine d'y compter. Alors, nous sommes là en tant que plus grande fédération des parents d'élèves de la Martinique. C'est nous qui avons lancé effectivement ce fonds commun. Bon, nous souhaiterions que tout le monde soit là ce vendredi de 13h à 16h pour trouver ensemble des solutions d'entraide pour savoir comment mener le combat pour la prochaine rentrée. Nos enfants sont en danger, de la maternelle à l'université. Au niveau du système, nous sommes au creux de la vague et tout le monde le sait. Alors je crois que si nous ne faisons rien, eh bien on fera de nos enfants des idiots, des ignares et puis ce que l'on veut.
Guy Métalli, administrateur de l'UPEM, au micro de Claude Gratien de Martinique La Première. Avant de vous quitter, mot sur la demande de révocation du maire de Pointe-à-Pitre, réitérée par le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin. Jacques Bangou est accusé de graves erreurs dans la gestion de sa ville. C'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée. Merci à vous, Tiziana Maron, pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce journal d'Haïti des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, 14h10, heure de Paris. En attendant, très très bon week-end à tous.